Les causeries de Charlie. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à nos causeries de Charlie autour du dernier numéro de ce mercredi. Alors, autour de la table, bon, on a froid ici parce que ça n'est pas chauffé, personne n'a chauffé la chaise de Gérard.
Mais non, c'est un scandale.
Gérard est arrivé, il s'est assis, il s'est dit, personne n'a chauffé ma chaise, non. Donc, on a froid, mais nous sommes nombreux, donc nous allons sans doute nous réchauffer, et puis après les esprits vont sans doute s'enflammer. Alors, sur ma droite, et dans une espèce de tenue de trappeur, c'est Jean-Louis Adélo.
Bonjour.
Bonjour Jean-Louis.
Lui, c'est pas une toque, hein, c'est ses cheveux. Hein.
Oh, wow. On ne sait pas. Où finit le menton et où commence les cheveux. C'est Jean-Loup, c'est l'espèce de bête de la forme.
Ouah, t'es en forme aujourd'hui, vous le savez.
À côté de lui, c'est le représentant de la génération Charlie, celui qui met le feu aux universités.
Hein. Bonjour, Fouls.
Encore pire que Jean-Luc Mélenchon, c'est notre ami Martin Lhomme. Bonjour, Martin. À côté de lui, alors on se précipite, hein, alors c'est Colline Renaud. Alors Colline
Renaud. Non, Renaud.
Renaud.
Et Colline Renaud.
Ah, c'est pas possible.
La dernière fois, il avait fait l'inverse.
C'est Colline Renaud, bien sûr. Alors Colline Renaud, qui va un peu dans des territoires un peu obscurs de la société française, hein, genre de Crépole, tu vas nous en parler.
Roman sur Isère,
oui, parce que maintenant on ne peut plus dire Crépole. Non. Je sais pas, tu nous préciseras tout ça.
Je vous expliquerai tout.
À côté, c'est Lord aussi. Bon, Lord aussi, on la connaît, hein, c'est vraiment l'ami des femmes. L'ami des femmes et de leur combat. Et de leur combat qui nous sont chers et on te voit souvent maintenant ici.
Oh, ça va être ma bio Twitter, voilà. L'ami des femmes.
Quand tu n'es pas sur LCP, tu es aux causeries de Charlie.
Donc je suis surtout sur Charlie.
On est très
quand même
heureux de t'accueillir. Et donc, bon, celui qui se frigorifie parce qu'on n'a pas chauffé sa chaise, c'est Gérard Billard.
Eh bien, bonjour, Foul.
Gérard Billard, l'élégant. Et à côté de lui, qui part bientôt en Pologne, donc il n'a pas peur du froid, c'est bien sûr Jovan Simovic.
Bonjour, Fouls.
Bonjour, Jovan. Alors, on va commencer tout de suite, hein, Jean-Loup. On va commencer par la couverture, parce que la couverture, c'est un petit peu l'état d'esprit de la société en ce moment, c'est-à-dire que c'est le retour de l'autorité, donc on a une espèce de chaîne donc, d'autorité avec Macron, ensuite Attal, ensuite qui va essayer de raisonner un père... Qui finalement donne la fessée à son fils, qui est visiblement à droguer, qui se remet dans le
pain. Fume un joint, ça va.
Alors, c'est de la drogue, monsieur.
Oui, c'est... vous fumez.
Comme disait Sarkozy, il y a la drogue. Alors, je ne vois pas ce que c'est qu'une drogue douce. Il y a la drogue et c'est tout. Et ça, je pense que tout le monde est maintenant d'accord pour en convenir. Au moins autour de cette table. N'est-ce pas, Martin? Viens.
Pourquoi ce regard suspicieux?
Et donc, alors, est-ce que vous avez un avis, justement, sur ce qui se passe un petit peu? Parce que là, on disait, oui, il faut absolument quand même faire quelque chose. On peut pas, on peut pas avoir un tel laxisme. C'est bien aussi qu'on ouvre devant.
Je n'ai pas dit ça.
Bah, c'était ce matin. Je sais pas, tout le monde avait un
avis. Que Laure était particulièrement dure avec les jeunes ce matin, j'ai trouvé aussi.
Pas, mais qu'est-ce que c'est que ces fake news?
Est-ce que tout le monde a un avis
alors, moi,
sur l'éducation?
La parole. Sur ce point, Attal est tombé dans la surenchère autoritaire, sécuritaire, etc., pour certainement plaire aussi à l'électorat d'extrême droite, ou à un électorat de droite, du moins, qui attend ça. Moi, je m'interroge vraiment sur est-ce que ce sont les bonnes solutions. Alors, probablement, il y a quelques bonnes solutions parmi ce qu'il a proposé, mais globalement, en fait, je voudrais. Il a quand même fait ses annonces. Donc, à Viry-Châtillon, là où Shamseddine a été tué par des frères qui, je rappelle, donc, voulaient préserver la réputation de leur sœur. Et je ne vois pas du tout, parmi ces mesures, comment on peut contrevenir à ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, là, on est vraiment sur des mentalités extrêmement patriarcales, archaïques, claniques, je ne sais quoi, et qui reposent toujours sur des inégalités filles-garçons très, très exacerbées, sur le fait qu'on considère qu'une fille, en quelque sorte, appartient à sa famille, que son corps ne lui appartient pas, que l'honneur de la famille repose sur sa pureté, etc., etc. Et donc cet élément manque complètement dans ces propositions. C'est un travail de fond qui n'est pas fait du tout. Et quelque part, quand on demande plus d'autorité, ses frères ont probablement l'impression d'avoir été dans le droit chemin, d'avoir fait usage de leur autorité selon leurs propres critères, leurs propres valeurs. Mmh. Et donc ça, on ne le remet pas en cause. Ouais. Et c'est bien dommage. Et moi, je pense, j'appelle à chaque fois, est-ce qu'il y ait vraiment les... Alors, ça paraît peut-être loin du sujet, mais si, enfin, qu'on rappelle l'égalité filles-garçons dans les établissements scolaires, il y a soit des modules spécifiques là-dessus, soit aussi à chaque fois aussi rappeler la laïcité, parce que la laïcité permet aussi de mettre à distance parfois des injonctions religieuses qui ajoutent à cette mentalité-là, mais aussi les séances d'éducation affective et sexuelle, et qui sont l'endroit où on peut aussi rappeler cette éducation, cette égalité filles-garçons, dénoncer et remettre en cause des tabous autour de la sexualité, parce que là on a vraiment ça. Je rappelle, au départ, la fille parlait de sujets sexuels avec ce garçon. C'est ça qui a mis le feu aux poudres et qui a tout d'un coup leur a fait peur par rapport à sa réputation. Donc il y a un tabou absolument.
Apparemment, dans les internats, il y a un projet aussi de quand même essayer de parler de ces choses-là. Avec les...
Il faut espérer qu'il y ait ça.
Dans les internats, on n'en parle pas, on le fait.
Oui, on espère qu'ils seront alliés l'utile à l'agréable.
En tout cas, il ne faut pas oublier aussi que les mineurs, ce sont des personnes aussi à éduquer, à protéger. Et c'est vrai que c'est assez désespérant de voir qu'on va considérer les mineurs comme forcément par principe les méchants de la société, et c'est pas en étant que dans l'autoritarisme qu'on fait avancer les choses. Il y a et les mentalités et l'éducation.
Oui, c'est le jeune comme un potentiel délinquant, le jeune comme quelque chose d'une menace maintenant,
le couvre-feu, c'est en dessous de 13 ans, c'est quand même pas non plus.
Oui, c'est ce qu'on disait avec Yovan en regardant cette mesure. En fait, en dessous de 13 ans, un gamin qui est pas chez lui a passé 22 heures, on se demande un peu ce qu'il fout dans la rue, quoi. Enfin, non, je sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres.
Nous,
mais c'est presque un peu une question de sécurité pour les gamins d'abord.
Ça dépend, quoi, j'imagine, au village en Bretagne à la belle époque.
Une fois que vous avez rentré les vaches et l'encou, vous faites quoi?
Rentrer chez soi, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on habite dans les bois, qu'est-ce que ça veut dire rentrer chez soi?
Ceci dit, les jeunes qui sont dangereux, qui sont méchants, c'est un vieux, enfin
oui, ça
a toujours existé.
Bon, les Apaches,
c'était les Apaches, c'était les blousons noirs dans les années 60,
des paroles de vieux,
c'était les chevelus dans les années 70,
c'est toujours les mêmes trucs, réactions qui reviennent, et on sait que c'est pas.
Il y a ce serpent de mer sur l'augmentation de la violence, effectivement, mais en fait c'est ce que disait Laure tout à l'heure, il y a la question des motivations de la violence, c'est ça qui est la question qui est la plus importante en ce moment. Là, ce qui s'est passé ces dernières années, je pense aussi au travail de Laure sur la réputation, c'est la question de la place de la femme comme étant une espèce de personne à protéger ou à éduquer par le grand frère, par l'homme, par le père de famille, de façon violente, soit objet de désir et en même temps qui va salir la réputation de la famille et qui va causer des faits divers qui viennent des faits de société, parce qu'en fait le crime dit, qui a été appelé crime d'honneur, nous paraît anachronique en fait aujourd'hui quand on le
nous paraît, il l'est.
Il l'est en Occident. Enfin, il est anachronique le crime d'honneur en Occident, sauf qu'il y a des pays où ça existe encore le crime d'honneur. Malheureusement,
ça existe aussi en Occident. Enfin voilà, c'est pas parce que c'est anachronique que c'est pas dans les faits. Hein.
L'idée que selon laquelle la violence est de plus en plus importante est pas l'élément important. Ce qui est important, c'est les motivations de cette violence et le fait qu'aujourd'hui on puisse en plus la légitimer, la justifier. On a vu ce qui s'est passé à Grande-Synthe avec Philippe, qui a été tué lors d'un guet-apens. Donc c'est cet homme qui a été accusé d'avoir eu rendez-vous avec une jeune fille mineure, ce qui évidemment aurait été inacceptable, mais qui a quand même été tué dans des conditions terribles, où il a été battu à mort, déshabillé, on l'a retrouvé avec les yeux crevés, enfin dans des circonstances vraiment terribles. Au départ, quand on trouve le corps, il y a beaucoup d'émotions. Puis quand la rumeur naît d'une rencontre pédophile, d'un seul coup il y a moins d'émotions et limite on arrive à justifier.
Bon, nous allons laisser faire l'enquête niveau de ce qui s'est passé à Grande-Synthe. Nous allons nous intéresser.
En effet, il n'y a pas. C'est vrai qu'il y a une légitimation, comme c'était une violence légitime. Il y avait une loi parallèle et qu'ils étaient dans leur droit de faire ça. Effectivement, c'est pas acceptable non plus.
Enfin, nous n'accepterons pas si les faits sont avérés.
En tout cas, pour revenir au début, les solutions d'Attal ne sont pas suffisantes pour aller au fond du problème.
Message est bien passé et que son cabinet saura réagir.
Je sais qu'il écoute les causeries et j'ai souvent des retours du cabinet d'Attal sur les causeries de Charlie.
Vous y allez un petit peu fort dans vos causeries. Eh bien, monsieur Attal, nous n'allons pas nous taire. Et nous allons tout de suite passer à d'autres problèmes.
Et lui rappeler qu'un mineur, c'est aussi une personne à protéger, parce qu'on n'a pas abordé aussi le fait qu'il veut remettre en cause aussi les fondamentaux de la justice concernant la justice des mineurs. Voilà, c'est aussi un sujet. La justice des mineurs existe aussi pour parce que la mineure est aussi une personne à protéger, n'est pas qu'un délinquant.
Oui, le premier qui est victime, c'est le mineur, avant de donner d'être le perpétuateur de violence.
Tout à fait.
Et aussi celui qui la reçoit le plus souvent. Et ça, tu
oui,
l'as
c'est
pas
les
dit,
mineurs
Jean-Loup.
Sont aussi les, des victimes, absolument.
Bon, alors on va arrêter de se pointer c'est les uns les autres du doigt. Hein. Et nous allons passer à nouveau avec Colline cette fois-ci. Alors, encore de la violence.
Oui, mais en fait,
mais de la violence un petit peu, peu rugbystique, hein, puisque là, on retourne. Alors, on dit plus Crépole maintenant, parce que Crépole, c'est le petit bled à côté de
Romans-sur-Isère, voilà, qui est le centre névralgique de violence. Enfin, c'est toujours le même sujet. On est en train de parler de violence des jeunes.
Il y a un deuxième mort.
Voilà, donc il y avait eu Thomas qui était décédé, qui avait été tué lors d'un bal de campagne au mois de novembre.
Un jeune rugbyman.
Un jeune rugbyman tué par des jeunes de la cité voisine, donc la cité de la Monnaie. Et là, au mois d'avril, il y a deux semaines, c'est un jeune de cette cité qui a été poignardé pour une broutille après une altercation où il s'est interposé. Il a pris un coup de couteau qui lui a transpercé le thorax, il est décédé. Et donc là, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que cette violence est révélatrice d'un fait de société à l'échelle de la France ?
Parce qu'il y a la mère du comment elle s'appelle ?
Marie-Hélène Toraval.
Qui dit que ce n'est pas des faits divers, c'est des faits de société. Elle veut essayer de leur donner une dimension
politique.
Elle essaye de leur donner une dimension politique. Et,
parce que c'est qui cette dame là en fait ? C'est quoi,
une mère divers droite qui.
Parce que moi je la vois un peu sur CNews, ce genre de médias qui.
Elle passe sur BFM, sur CNews.
Oui, voilà, c'est là où s'arrêtait sa diversité.
La diversité. CNews accueille la diversité.
Oui, hein, c'est vrai qu'en fait, les gens de gauche de CNews.
Quand on creuse un petit peu la situation politique de Romans-sur-Isère, elle a trouvé un terreau, puisque pour diverses raisons, elle s'est mise à peu près toute la ville à dos, les commerçants, les anciens combattants. Et là, elle essaye d'activer une extrême droite qui n'existait pas avant dans la ville, en parlant, en se mettant cette cité, enfin en néostrasisant cette cité. Elle parle de sauvageons, de jeunes hors contrôle, d'ensauvagement et de termes comme ça. Sachant qu'elle sait très bien que les habitants de cette cité ne votent pas, donc politiquement pour elle ça ne la met pas en danger. Et ce que ça raconte, c'est que la façon dont on interprète ces morts vont leur donner une définition qu'ils n'auraient pas forcément eue de prime abord.
Oui, parce que par exemple, il y a ce monsieur qui s'occupe du club de rugby et qui dit y a des balles qui dégénèrent, etc. Il y en a toujours eu, etc. Mais le climat est tellement un peu comme ça, à l'extrême droitisation du débat, que effectivement,
En fait, c'est une ville très pauvre, Romans-sur-Isère, qui était une ville d'industrie de la chaussure de luxe avec des délocalisations depuis les années 80, une ville extrêmement pauvre, c'est la plus pauvre de l'agglomération. Et avec donc une fracture très grande entre une cité totalement à l'abandon, surtout depuis une vingtaine d'années, et une extrême droite qui monte. Donc il y a une fracture identitaire qui existe et qui a été attisée par la maire et par les médias et la façon dont l'histoire a été racontée depuis 6 mois, et qui fait qu'aujourd'hui, oui, la ville est séparée en deux, mais elle ne l'était pas forcément avant, ou en tout cas ça a révélé quelque chose et ça l'a fait exister en même temps.
C'est-à-dire qu'une fois que pendant 6 mois, là, on a stigmatisé ce quartier où il y a des étrangers, etc., tout n'a fait que monter, le fossé n'a fait que se creuser. Quoi, parce que,
oui, voilà, c'est ça.
Alors que la paupérisation touche
Toute la ville, et que ces jeunes vont tous... En fait, on parlait d'un choc de civilisation, de deux mondes qui se rencontraient lors de ce bal de Crépole, alors que ce n'est pas le cas, en fait.
Oui,
tous ces jeunes, ils vont dans le même lycée, ils se connaissent. On parle d'un endroit petit, ce n'est pas deux mondes totalement, comme on dit...
Oui, comme disait Ce sont pas des extraterrestres.
Voilà.
Ce sont pas des extraterrestres qui sont venus. Ce sont des nôtres. C'est dans la communauté entière.
Donc, est-ce qu'il y a une augmentation de la violence ? Ça, je sais pas. C'est toujours le même débat. Est-ce que la société est plus violente ou non ? En tout cas, ce qui est nouveau dans cette cité, c'est le fait que les gamins sortent des couteaux à chaque dispute. Donc ça, a priori, ça existait pas avant. On m'a dit qu'il y a toujours eu des bagarres dans les balles de campagne comme à la Monnaie, mais ça finissait pas en adolescent poignardé. Donc pourquoi est-ce que c'est une mode, est-ce que c'est un phénomène de société, ça c'est la question.
Et est-ce que le récit politique presque idéologique qui est fait de cette histoire, et je parle surtout de la première fois à Crépole, c'est-à-dire en fait, on va le dire clairement, c'est-à-dire de jeunes de cité, donc issus de l'immigration, qui débarquent dans un bal de blanc, parce que c'est ça qui a été raconté, hein, on est d'accord, est-ce que ce récit-là, c'est pas ça qui est nouveau, en fait, de dire qu'on est vraiment dans un récit qui est pré-guerre civile, quoi, c'est-à-dire qu'on serait dans un monde où, à la fois, une certaine gauche trouverait à dire que ces gamins-là sont pas les bienvenus dans des endroits de blancs, à la fois les blancs sont menacés dans leurs endroits par les personnes issues de l'immigration. En fait, ce récit, il colle vachement bien aux deux imaginaires extrêmes politiques qu'on peut avoir, quoi. Est-ce que ce récit-là, c'est pas ça qui est nouveau, plutôt que la violence et que le degré de la violence?
Et c'est ça, en fait, la fracture latente qui s'est précipitée sur le premier symbole symbole pour essayer de l'incarner, alors que y avait pas forcément matière à. Oui. Tu vois, par exemple,
ils
tout le monde s'est dit.
Télé, ils se sont vus,
tout le monde s'est dit, c'est la salle des fêtes, et là, la salle des fêtes a été vue comme le dernier bastion de l'identité française, alors que quand j'ai.
J'adore.
Quand j'ai débarqué. Et quand j'ai été à Crépol la première fois en novembre, en fait, c'était pas du tout le petit village de campagne comme on l'imaginait. Il y avait certes un petit café, mais qui était abandonné. Et en fait, ils avaient déménagé dans un bâtiment plus moderne, collé au Super U. En fait, ça restait une zone périurbaine collée à Romans-sur-Isère. C'était pas vraiment le petit village bucolique de campagne comme on peut l'imaginer.
C'était pas la France éternelle.
Ouais, exactement. Tout le monde avait cette représentation de France éternelle.
Vue de Paris.
Qui était un fantasme, en fait. Vue de Paris, ou même des gens de la campagne qui se sont vus comme ça.
Etc. Village Astérix. Hein,
C'est pour ça qu'en fait.
Comme si les Visigoths débarquaient pendant le banquet.
C'est pour ça que la situation est complexe, parce qu'à la fois il y a des fractures et en même temps il y a des fantasmes. Et c'est un mélange de fractures, de fantasmes qui font exister les fractures.
Et rien que le terme crépolisation, tout ça.
C'est qui a dit crépolisation à part toi?
Personne n'a dit ce terme. Créolisation.
Oui, mais même si c'est ce qui ne veut pas dire la même chose. Par extrême droite, il y a crépolisation.
Tu l'as lu crépolisation?
J'ai lu crépolisation.
Ah oui,
la France, on voit crépolisation. Oui, ce lieu-là était le lieu de tous les fantasmes, effectivement.
Je pense qu'il y a un jeu vicieux sur les mots, parce que ça sonne avec créolisation.
Oui, je crois.
Voilà. Donc c'est voilà.
J'allais dire, en revanche, le terme qui est utilisé par les habitants de Romans même, c'est Romans sur misère.
Oui, voilà.
Ça.
Oui.
Bienvenue.
Mais les gens adorent les calembours, c'est insupportable.
C'est ça le vrai fléau aujourd'hui,
c'est les calembours.
L'inventivité de la langue, l'inventivité à la française aussi, c'est assez joli, non?
Non.
Et tu disais qu'il y a de la drogue aussi maintenant. Il y a aussi le trafic de drogue.
Ça, pour le coup, c'est pas nouveau, en fait. Oui,
c'est pas nouveau.
Non, mais c'est une cité avec du trafic de drogue. C'est
oui.
Et en fait, c'était à la marche blanche de vendredi. Le jeune homme a été tué juste devant l'écriture « Vous êtes arrivé », qui est le point de deal. Et en fait, ça avait rien à voir, parce qu'il a été tué pour d'autres raisons.
C'est presque l'ironie du sort, dans ce cas-là. Hein, Gérard ? Qui aime les formules. Bon, donc tu vas continuer à suivre Crépol, parce que tu es tombé amoureux de ce petit village, apparemment.
Voilà, c'est une ville charmante, avec des chaussures un peu partout pour rappeler l'histoire de la ville.
Est-ce que la morale de cette histoire, ce n'est pas de continuer à acheter des chaussures de luxe pour maintenir des activités dans ces petites régions? Parce que là, tu dis que tout est parti de l'abandon de la manufacture de chaussures de luxe.
Oui, donc j'invite tout le monde à porter des chaussures de luxe.
Voilà. Si chacun fait
l'effort. Fools, déjà.
Oui, moi j'ai
Fools s'y est déjà mis, oui,
voilà.
Bien sûr.
C'est fille pour ça.
J'invite tout le monde à le faire aussi.
Fools a des mocassins à glands.
Fabriqués à Romans-sur-Isère.
Voilà.
Oui, c'est les derniers. Je les porte.
C'est les derniers glands ou c'est les derniers mocassins?
Non, ça ne sera pas les derniers glands, toujours du bois. Et voilà. Alors bon, je crois qu'on a fait le tour de Crépol pour l'instant, parce que là tu vas sans doute nous ressortir des choses.
On verra.
Donc je crois que tu as acheté une petite bicoque. Hein, non. Oui.
Je me lance dans l'organisation de balles.
On remonte. On remonte vers d'autres terres, des terres bretonnes, avec l'or. Parce que toi, l'or, tu es à Rennes.
Absolument.
Et plus particulièrement à Villejean, pour ceux qui connaissent. Hein. À Villejean, toi, Martin,
quartier
ça te parle,
hein,
puisque c'est là où il y a l'université de Rennes 2. Hein,
Rennes de la Rouge.
Rennes de la Rouge, les camarades.
Bientôt en conférence avec Génération Charlie, on espère.
Et voilà, placement produit. Bon, donc.
Placement produit.
Oui, et donc. Et donc, tu es allé à Villejean rencontrer un collectif de femmes africaines.
Oui, un collectif de femmes formidable. En fait, elles ont... une de leurs amies a été assassinée par son mari, il y a 2 ans. Donc, un féminicide de mari. Voilà. Et je les ai rencontrées parce qu'elles faisaient une petite cérémonie en mémoire de mari. Et surtout, c'est qu'elles elles se sont constituées en collectif depuis. Puisqu'en fait, elles expliquent que beaucoup de femmes, mais bon voilà, c'est le cas évidemment pas qu'à Villejean, mais il y a eu quand même une prise de conscience, c'était une espèce de déflagration dans leur communauté, notamment dans leur quartier, par rapport aux violences faites aux femmes. Et elles me disent, nous on avait l'impression que les féminicides, les violences, c'était des blanches, voilà, et on n'avait pas compris, on n'avait pas pensé que ça pouvait aussi nous arriver.
Que le MeToo, c'était et une affaire de
le MeToo,
de
c'est l'affaire aussi. De tout le monde, ouais, voilà. Ouais. Et donc, elles font en quelque sorte leur propre MeToo. Et quand il y a eu ce féminicide, en fait, elles disent aussi que ça s'est produit parce que cette femme n'osait pas parler. Quand elle parlait, on lui disait, non mais attends, voilà, c'est le père de tes enfants, tu dois l'accepter comme ça. Mmh. Il y avait une sorte de pression sur elle, culturelle, on va dire. Et quand ça s'est produit, ensuite, il y a eu une libération de la parole. Il y a 200 plaintes qui ont été déposées au commissariat de la part de femmes du quartier. Et donc, elles se sont constituées en collectif. Elles se sont formées à l'écoute de la parole, à l'écoute pour recueillir les paroles des femmes victimes de violence.
Elles s'appellent clandestines.
Elles s'appellent clandestines. Pourquoi ? Parce que beaucoup sont d'anciennes clandestines et sont anciennes sans papiers.
Ouais, hein,
et que aussi elles ont
des parcours
dans l'ombre. Qui, oui. Voilà, elles ont des parcours extrêmement
difficiles. C'est pas facile d'aller par exemple à un commissariat.
Absolument.
Parce
qu'elles racontent aussi, c'est qu'en effet, il y en a qui, quand elles sont sans papier, eh bien, si elles vont au commissariat, elles risquent d'être expulsées.
Ou alors
elles-mêmes.
Le conjoint lui-même
aussi,
sans papier.
Absolument.
Dit, si
elles n'osent pas forcément dénoncer un homme violent parce qu'elles se disent c'est automatiquement l'expulsion. Donc il y a une sorte de double peine. Et donc elles se disent bon, est-ce que je vais porter plainte ou pas ? Donc ça ajoute aussi au problème. Voilà. Et puis donc elles doivent aussi travailler dans l'ombre parce que c'est pas toujours bien vu de la part d'autres de leur communauté de dénoncer ces violences. Donc elles disent leur slogan c'est travailler dans le secret pour sortir du silence. Voilà, je trouve que c'est un beau slogan. Et voilà, elles essayent de faire bouger les choses. Elles réfléchissaient, donc je les ai rencontrées longuement tout au long de ce week-end, et elles réfléchissaient aussi au pourquoi elles en arrivent à cette chape de plomb, et elles disaient, on est éduquées souvent dans l'idée que on doit respecter un certain nombre d'interdits, on doit servir même notre mari.
Oui,
il disait, mais je sais que voilà, j'essaye de lutter contre ça, de faire en sorte de ne pas transmettre ça à ma fille, de faire
que le
les
fils
choses,
peut aller
évident.
Volontiers faire la vaisselle s'il n'est pas chassé de la cuisine.
Voilà,
si
alors
qu'il
dit, on dit à des garçons, non, toute ta place n'est pas dans la cuisine. Et elle a dit, maintenant je lui dis, tu vas faire la vaisselle. Donc voilà, c'est tout un. Tout un ensemble de réflexions qu'elle mène, et voilà, c'était une discussion, des échanges passionnants, et parfois j'ai envie de dire le grand reportage c'est aussi autour d'une table en entendant ces femmes raconter leur vie, parce qu'elles ont des vies
chacune a aussi un destin
elles
incroyable,
elles ont un courage à toute épreuve et impressionnant, voilà, parce qu'elles ont vécu des choses aussi bien voilà de la part de leur famille aussi parfois avec envoyées en Europe mariées de force,
des mauvaises rencontres avec, bien souvent alors, il y avait un gendarme qui eux ont toujours la bonne formule, parce que dans la gendarmerie on manque pas d'humour, qui disait madame vous attirez les hommes violents,
on les accueille aussi.
Oui, donc c'est des...
Et le parcours notamment d'une femme qui est la figure de proue de ce collectif, c'est Régine Comocoli, dont je raconte la vie et qui me parle longuement, et qui est une personne formidable. Voilà.
Et aussi un truc qui est assez intéressant, c'est que les associations féministes, du coup,
voilà,
on va dire blanches, entre guillemets, qui leur dit attention de pas trop insister sur les dysfonctionnements comme ça des hommes violents, etc. Parce que ça va faire le jeu du racisme, ça va faire le jeu de l'extrême droite.
Oui, Régine me disait qu'elle se trouvait prise dans cet étau avec d'une part, je le disais, des femmes de leur communauté qui disaient ne critiquez pas notre culture, et puis des féministes blanches qui disent ne critiquez pas trop. Ne dites pas trop que les hommes sont violents autour de vous, parce que vous allez faire en effet le jeu de l'extrême droite. Il disait mais en nous disant ça on rajoute un tabou. Et elles veulent juste être entendues, et elles veulent pouvoir faire leur MeToo aussi et qu'on les écoute.
Ce qui nous rejoint un peu sur notre idée de l'universalisme
du féminisme. Absolument.
Oui, bien sûr. Mais
ces femmes-là, il y a aussi une femme qui dit à un moment, je ne savais pas qu'il y a 50 ans en France, les femmes vivaient aussi comme nous, c'est-à-dire sous le joug de leur mari, qui ne pouvaient pas faire de chèque, etc., que ça existait aussi. Donc, qu'il y a l'idée de progrès, que c'est possible. Donc, on n'est pas forcément, comme ça, ad vitam aeternam, obligé de servir son mari, que la société peut évoluer, qu'elle aussi, etc. Donc, ça donne toutes des perspectives. Et ça, nous en réjouissons ici. N'est-ce pas, Gérard, de SOS Macho?
Absolument. Non, mais ce qu'il faut.
Tu te reprends même pas le
zéro macho.
Ce qu'il faut. Non, mais je vais plus reprendre. Ça sert à rien.
SOS Macho.
Voilà. Donc, non, mais il faut souligner aussi qu'il y a, bon, il y a, enfin, ce sont des associations féministes qui disent ça, mais pas toutes, heureusement. Voilà, il y a des associations féministes. Moi, je pense surtout à une association qui s'appelle Femmes Solidaires, qui travaille, enfin, qui est une vieille association et qui est issue des réseaux d'éducation populaire et qui travaille justement
auprès de ces femmes, dans toutes les cités.
Et qui parfois ont beaucoup de mal parce que elles se font traiter d'islamophobes, elles se font traiter de racistes elles-mêmes, enfin
c'est une
aberration. Mais il y a des associations féministes qui évidemment travaillent sur ces questions-là évidemment.
Voilà. Alors, on peut dire que on peut espérer une conjonction comme ça des féminismes.
Hein, on l'a beaucoup vu ces derniers temps à la télévision. Alors, c'est important d'en parler, hein, les actrices agressées, etc., les femmes connues.
Oui, mais ce qui est assez drôle,
c'est important, c'est bien que tu en parles.
C'est qu'elles sont en marge de tout. Ouais.
La personne qui me parle me dit Judith Godrèche, on ne la connaît pas.
Oui,
et je crois
sûr.
Que c'est important ouais, d'entendre ouais. ça, parce que nous, on a l'impression que tout le monde connaît Judith Godrèche. Mais c'est pas vrai. Elle dit on ne peut pas aller au cinéma, on n'a pas le temps, parce qu'il faut. Qui va garder nos enfants? Pour le coup, c'est des femmes souvent qui sont des familles monoparentales, et elles ne peuvent pas, c'est pas une habitude culturelle comme ça d'aller au cinéma. Judith Godrèche, elle ne connaît pas. Donc, c'est vrai, quand il y a le MeToo avec des actrices, et qui est très important, hein, je vais pas tout remettre en cause le MeToo, mais ça n'a pas forcément d'impact sur tout le monde.
Ça renforce même l'idée que ça n'est pas pour elles, puisque ce sont des gens du cinéma, donc ça n'a rien à voir.
C'est loin,
avec...
c'est
dire ça n'a rien à voir avec mon cas, ça n'a rien à voir avec ma vie.
C'est très important d'avoir des cas comme ça où le MeToo vient aussi de la base.
Puis il y a un truc
comme ça que le MeToo va vraiment pouvoir fonctionner.
Dans ton papier, j'ai trouvé, c'est comment est-ce que certains hommes utilisent ces femmes-là quand elles ont la nationalité française, notamment pour réussir à l'obtenir ou avoir des permis de séjour, des trucs qui sont, je pense, pour une partie de la d'une certaine gauche absolument impossible à dire. C'est-à-dire que oui, effectivement, ces femmes sont doublement victimes. Elles sont victimes d'un rapport patriarcal, elles sont victimes de violences, et puis aussi en fait elles sont victimes quasiment d'un arnaque-sentiment presque, ou de parce qu'en fait on a besoin d'elles pour rester sur le territoire.
Elles sont arnaquées à plein d'aspects, plein de moments. Et d'ailleurs, aussi un autre élément que m'a raconté Régine Comocoli, c'est qu'on dit, d'ailleurs ça m'a fait penser, parce qu'un précédent reportage que j'avais fait sur les MNA, les mineurs isolés, non accompagnés, et en fait effectivement 90% ce sont souvent des jeunes garçons, et on a un peu trop vite l'impression que finalement il n'y aurait pas de filles. En fait elle dit si, bien sûr il y a des jeunes filles aussi qui viennent, sauf qu'elles sont tout de suite aussi dans des réseaux de prostitution, de traite des femmes, ou mariées de force, donc c'est pour ça qu'on ne les voit pas dans la rue, mais leur situation n'est pas davantage enviable. Et là, toutes les femmes que j'ai rencontrées, c'est ça, à 14 ou 17 ans elles se sont retrouvées mariées dans des mariages qu'elles n'ont pas du tout choisi. Elles disent pas vraiment de mariage forcé, mais ils disent mariage des parents ou
voilà. Avec des enfants qui
et en
qui...
plus les maris à ce moment-là disent mais t'es bien content d'être, enfin si t'étais pas avec moi tu serais pas en Europe, et donc elles doivent se taire et elles n'ont aucun droit. Elles débarquent, il faut quand même s'imaginer, ce sont des jeunes filles de 17 ans, de 19 ans qui débarquent dans un pays où elles ne parlent même pas la langue. Il y en a une, elle débarque en Allemagne toute jeune, sans connaître rien du tout de la culture du pays, de la langue, et elles sont mariées avec un homme qu'elles ne connaissait pas une journée avant.
Et ça marche pas.
Et voilà. Et elles font tant bien que mal avec ça. Et elles doivent. Elles essayent de trouver leur liberté aujourd'hui.
À Rennes.
Dans ce contexte-là.
C'est une belle ville de Rennes.
Donc la vie commence à Rennes. Pour certaines. Gérard, un dernier mot sur Rennes?
Non, je te laisse, c'est ton territoire.
Ouais, absolument. Enfin, bref, pour nous, Rennes, c'est un petit peu Paris, quand même. C'est pas vraiment la Bretagne. Enfin, bon, ça, c'est subsidiaire.
Je voudrais quand même, pour finir, souligner la fin de mon article.
Ah,
pour Fools, quand même, ce petit clin d'œil, parce que ça, chacun sait que je viens du pays des druides. Et donc, Régine Comocoli m'a dit en partant Kenavo.
Kenavo.
Cette jeune africaine qui dit Kenavo.
Ce qui veut dire?
Qui veut dire au revoir.
Ah.
Alors nous, à tous nos auditeurs...
C'est pas merci.
Vous voulez le dernier
mot? Non, c'est
Trougers. Trougers, merci.
Oui, on connaît beaucoup moins.
Alors, merci beaucoup.
Ça se dit beaucoup moins en Bretagne.
Vous venez entendre Jovan Simovic, qui était donc présent au podcast aujourd'hui.
Souvent, les gens partent sans dire merci en Bretagne.
Ouais.
Donc, Trougers, merci. Trougers Brass, merci beaucoup. Donc, on va dire...
Trougers Brass.
Kenavo.
Kenavo.
En Trougers Brass à nos auditeurs. Au revoir et merci beaucoup.
Et à la semaine prochaine.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir.